Et regarde la famille que tu as. Et ça, c'était vraiment le plus gros truc pour moi. Et on en parlait ce matin, on parlait des oiseaux, on est ensemble et tout ça. Et pour moi, de réaliser cette famille de Dieu que j'ai, bon, ici, mais aussi dans le reste du monde, et de voir des gens qui, même des gens qui ne me connaissent pas, mais qui savent que, voilà, je sers le Seigneur, et qui étaient prêts à s'engager, qui ont prié, ça, pour moi, c'était fort, très, très fort. Et je me suis dit, dans l'année, quand tout va bien, je ne me rends pas compte de ça. On ne se rend pas compte de la beauté du corps de Christ. Alors on voit en général les choses qui ne vont pas à l'église, on voit les problèmes ici et là, et puis on ne se rend pas compte de la richesse du corps de Christ. Et pour moi, c'était vraiment un rappel de se dire, n'attends pas que tout aille mal, n'attends pas d'être sur le point de mourir pour réaliser la bénédiction que c'est d'avoir une famille comme ça. Et donc voilà, ce matin, je voulais juste vous raconter ça parce que vous faites partie de ma famille et je sais que certains d'entre vous ont prié et ça, c'est précieux de savoir qu'il y a une famille derrière et pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand tout va mal, mais à tout moment, on peut s'encourager les uns les autres, on peut prier les uns pour les autres. Donc encore un grand merci d'être ma famille ici.
Alléluia. Donc j'en profite pour faire un rappel d'un des besoins de l'Église, c'est que pendant quelques années, nous avions un peu une personne qui était en charge d'être l'antenne avec Johan et puis ceux d'entre nous qui étaient partis dans le monde ou pour des missions ou autres, ce côté un peu missionnaire, quoi. Et depuis quelques années, il n'y a personne. Donc on reçoit toujours les nouvelles de Johan. Mais disons, je pense que ça, c'est un des besoins que nous avons à relever. Et la fois où, en particulier, il y a eu le SOS par rapport à ce que tu as vécu, c'est vrai qu'ici, il y a eu un manque de transmission quand même par rapport à... On envoyait les mails, mais disons, je pense qu'on peut faire mieux au niveau de ça. Et j'aimerais dire aussi qu'une partie de l'offrande d'aujourd'hui ira pour le ministère de Johan. Alors, on le soutient modestement en tant qu'Église. De temps en temps, il y a... Quels sont tes prochains défis, par exemple? Quel est ton prochain défi, mission ou autre?
Bon, c'est toujours beaucoup de déplacements. Même là, que je suis en France pour des vacances, je suis là juste pour un mois de vacances, mais le reste... Le mois prochain, je serai en Espagne, en Angleterre, en Biélorussie pour des formations, tout ça. Donc voilà, c'est toujours la vie dans la valise et donc beaucoup de dépenses et puis aussi ben, voilà, les trajets. Donc là, vraiment besoin de prier par rapport à la protection, par rapport déplacement et tout ça. Donc c'est toujours un peu pareil finalement, mais c'est important. Oui, alors les transports, tout ça, les voyages, ça me fatigue pas du tout, au contraire, ça me donne de l'énergie. Dieu m'a donné un corps qui s'adapte partout. Je souffre pas du décalage horaire, donc ça aussi c'est appréciable. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des petits problèmes de santé ici et là, ou alors des chevilles de tordues et des choses qui se passent. Ça s'accumule ces derniers temps, c'est un peu particulier. Parce que d'habitude, j'ai aucun problème de santé. Du coup, c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu quand même plusieurs combats de ce côté-là. Donc effectivement, prier pour la protection et la force, quoi.
On veut le bénir, je vous invite à lever nos mains vers lui. Et on est tellement fiers de Johan et des gens comme toi qui donnent leur vie pour l'Évangile, pour le Seigneur, avec simplicité, sans faire beaucoup de bruit, mais vraiment avec un cœur pour Dieu. Et j'ai rarement vu aussi un tel regard sur le corps de Christ. Et au lieu de voir les manques, au lieu de pouvoir redire bien des choses, eh bien, il a choisi de bénir et de relever ce qui est beau, ce que Dieu voit. Seigneur, merci pour Johan. Et Johan, vraiment, nous te bénissons. En tant qu'Église, nous appelons la faveur de Dieu sur toi. Et nous remercions le Seigneur pour sa fidélité et sa protection. Et nous prions que cette année, tu sois à nouveau une grande source de bénédiction. Que Dieu te donne la sagesse dans tes voyages, le discernement dans les relations, et te donne la faveur pour être une source inépuisable d'encouragement. Tu as vraiment Quand je pense à toi, je vois Barnabas, un ministère d'encouragement, un ministère de soutien. Et partout où tu passes, et tu es celui qui encourage, qui fait du bien. Et sache que être avec toi, ça fait du bien. T'entendre, ça fait du bien. Alors merci Seigneur pour ta faveur sur lui. Alléluia. Merci Jésus.
Et Seigneur, dans cette année de jubilé, nous disons que c'est aussi une année de percée dans tous les domaines pour Johan. Ce que nous ne connaissons pas, mais que toi, tu connais. Nous déclarons la faveur et dans ton calendrier, Seigneur, tu es Seigneur des Seigneurs. Et merci pour cette conscience qu'a Johan de ta Seigneurie dans sa vie. Continue à glorifier ton nom, Papa, au travers de sa vie. Continue à le conduire, à lui faire du bien. Et vraiment, nous parlons la bénédiction, la percée, la santé dans tout son être, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, de l'avoir gardé. De l'avoir gardé encore avec nous.
Alléluia. Amen. Merci, Johan. On reste en contact. Merci pour tes nouvelles régulières. Et j'en profite pour accueillir Pierre et Isabelle, hein, les fans de Johan aussi, les amis depuis tant d'années. Et on est vraiment heureux de. Vous savez que la semaine a été bien remplie. Et je reviens en particulier la première partie de la semaine de Bruxelles. Où dans le Parlement européen, il y avait les responsables de réseaux d'écoles chrétiennes des différents pays d'Europe et invités par des parlementaires chrétiens, en particulier des Pays-Bas. Et il y avait le point sur la liberté de religion et liberté d'éducation en Europe, avec des ONG aussi et le représentant de l'Alliance évangélique au Parlement européen. Donc c'était un temps fort et ce que je retiens de ce temps, c'est que actuellement, il y a un sujet de prière pour l'Europe, très particulier. C'est qu'il semblerait qu'il y a comme deux blocs qui sont en train de s'opposer, mais quelque part, oui. Le bloc de l'Ouest, qui veut faire passer les théories du genre, le mariage pour tous, etc., aux pays de l'Ouest, de l'Est de l'Europe, qui, eux, disent « nous, on ne veut pas de ça ». On est d'une culture chrétienne, orthodoxe ou autre, et on n'en veut pas. Et donc, j'ai entendu plusieurs parlementaires des pays de l'Est, Roumanie, République tchèque, etc., Slovaquie, et vraiment, ils nous disaient qu'il y avait comme un... C'était en train de se tendre entre les deux blocs, et si ça continue, il y avait une sorte d'esprit de colonialiste par rapport aux pays de l'Ouest qui voulaient imposer leurs valeurs à l'Est. Et donc c'est vraiment quelque chose, c'est un sujet de prière vraiment. Merci Seigneur pour ces chrétiens. D'ailleurs, les parlementaires chrétiens, à part les Pays-Bas et l'Allemagne, c'était tous des gens des pays de l'Est. Donc on se rend compte qu'il y avait un gars, c'était un pasteur aussi, qui est allé dans la politique pour servir son pays, qui aime les gens, il a donné son témoignage de conversion, c'est extraordinaire. Donc on a besoin vraiment de prier par rapport à ce fossé qui est en train de se faire, parce que l'Europe, c'est l'héritage aussi de Dieu. Et il y a besoin de combler ce fossé et de prier pour les parlementaires. Donc n'oubliez pas de prier pour cela. Il y a Evelyne Fréhoff là, qui est au milieu de nous, qui est vraiment un cœur aussi pour l'Europe, qui est dans les petits déjeuners avec les parlementaires. Mais je crois qu'on a à voir la vision large. Nous sommes européens et Dieu a un plan pour l'Europe. Et ça a été très concluant. Nous sommes allés ensuite de mercredi soir jusqu'à hier soir. On était donc à Stuttgart, au rassemblement de leaders et tous les responsables de l'équipe apostolique, les Rindel, nous-mêmes et tous les responsables du réseau Héritage, nous étions invités dans cette conférence au Gospel Forum avec le pasteur Peter Vance. Et là, on a été accueillis vraiment par un pasteur de l'équipe qui est alsacien, Monsieur Sigler, ceux qui connaissent, je sais pas. Et puis Achim, on dit en allemand, qui est notre ami, notre frère, qui va investir ici au niveau de l'église pour la formation de Timothée en particulier et qu'on accueillera au culte dimanche prochain. Et donc ça fait des années, rappelez-vous, les paroles prophétiques, depuis longtemps, Dieu nous parle d'un pont avec l'Allemagne. Alors il y en a eu des petits qui se sont faits. Le réseau IDNet, le partenariat du Collège Daniel avec l'art. Il y a des choses qui se font. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on a touché quelque chose d'un plan de Dieu. Il y a un des pasteurs qui m'a dit, moi ça fait des années qu'on prie pour un pont avec les Français. On a essayé, il n'y a rien qui est venu. Et là, on n'est pas venu seulement représentant d'une église, mais de tout un réseau. Et donc là, vraiment, on a eu un cœur à cœur. On a pris la Sainte Seine avec le responsable. C'est une grosse église, c'est une église importante, hein, de 5000 à 6000 membres. Une belle église, vraiment, et qui invitait aussi, à l'occasion, le pasteur Bill Johnson. Donc, pendant ces journées, Dieu nous a parlé, et j'aimerais pas faire un résumé, c'est pas le but, mais j'ai choisi de vous partager quatre points qui, pour moi, ont été des points très importants qui se répercutent aussi au niveau de l'église locale. Un des premiers points, c'était briser le pessimisme et entretenir la foi. Ça, c'était vraiment sur plusieurs orateurs allemands, Bill Johnson lui-même, le reste. On est rentré, il y a un pasteur qui est plutôt évangéliste et qui a dit ceci, écoutez bien, c'est une phrase qui mérite méditation pour chacun de nous ce matin. Écoutez ça. Je veux plus méditer sur la grandeur de Dieu que sur la grandeur de mes problèmes. Je veux plus méditer sur la grandeur de Dieu que sur la grandeur de mes problèmes. Je ne sais pas si vous voyez l'implication de ça. Souvent, on louche sur les problèmes. Et comme l'a dit Johan, y a un autre regard aussi. Je veux plus méditer sur les promesses que sur les défis. Et ça, cette attitude-là est une attitude qu'on a ressentie tout au long de cette conférence à Stuttgart. Entre parenthèses, c'est une église, ils ont 800 scouts qui sont lancés dans la ville et dans les quartiers qui ne sont pas évidents de Stuttgart. C'est un tel témoignage pour la ville que la ville leur a payé toute la rénovation de leur bâtiment qui est déjà neuf. Alors je ne sais pas si vous dites, impressionnant, impressionnant. Donc vraiment des faveurs de la ville. Et autre chose, un point qui m'a touché, on a parlé avec le pasteur, il a dit le point c'est l'unité du corps de Christ. Il travaille avec tous les chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, toutes les branches. Et ils sont un témoignage au niveau de la ville. Et ce qu'on vit à Gavillère, c'est plus petit, etc., mais c'est le même cœur. On travaille avec tout le monde. Et ça, c'est le cœur de Dieu, et ça, c'est le gouvernement de Dieu. Et il y a vraiment une faveur par rapport à ça. Ce n'est plus un esprit dénominationnel. C'est l'esprit de Dieu qui rassemble ses enfants. Donc, la culture pessimiste, et qui est sur la France en particulier quelque part, hein, le pessimisme fait que chaque moucheron devient un éléphant. En fait, c'est ça le problème du pessimisme. Mais l'homme de foi, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit dans chaque éléphant un moucheron. Hein, si on veut résumer, c'est ça. Et donc, on a été encouragé à marcher orienté par les promesses de Dieu. Les promesses sur nos vies personnelles, les promesses sur l'Église locale et l'Église de France, et les promesses sur le pays aussi, et sur l'Europe. Et donc, être un peuple orienté par les promesses. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tellement important. Et c'est un peu comme les 10 espions, 12 espions, hein, les deux qui disent qu'ils voyaient la grandeur des problèmes et qui se voyaient tellement petits par rapport. Et puis deux qui voyaient les promesses, Caleb et Josué. Et en tant qu'église Josué, il y a un ADN de voir les promesses et de les saisir. Et ces promesses, c'est au-delà de l'église locale. C'est les promesses pour le pays, pour l'Europe, encore une fois, pour l'éducation dans ce pays, etc. La peur, elle bloque. La peur, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est le contraire de la foi. La peur, elle nous bloque, elle nous empêche, elle nous fait oublier les promesses. La peur, elle nous fait oublier les promesses. Et donc, vraiment, on était encouragés à entendre ce Christ qui dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». La crainte, vraiment, elle pourrit la vie, elle paralyse, et la foi, elle booste. Donc la foi, elle tient les promesses. Et Dieu voudrait qu'on attaque les promesses. Et les promesses, elles se disent. Il y a un texte qu'on connaît bien, mais qui a été rappelé de façon un peu peut-être particulière. C'est le texte de 1 Samuel 17, versets 45-47, David qui est avec Goliath. Et il a été relevé, et je crois qu'on doit le relever aujourd'hui, nous. C'est que, alors que les gens voyaient la grandeur d'un Goliath, David, lui, il était centré sur Dieu. Et si vous faites une analyse du discours de David par rapport à ce phénomène, il n'a pas le même langage qu'un Saül. Saül voit le problème, il voit le Goliath, etc. Mais lui, David, est toujours orienté vers la grandeur de Dieu. Toujours. Et donc, non seulement il est orienté et ses yeux sont focalisés sur la personne de Dieu, mais il commence à dire ce que Dieu dit. Et en fait, c'est le langage est un langage qui précède la victoire. Il n'y a pas de victoire sans déclaration préalable. La déclaration préalable est essentielle. Par exemple, lorsqu'il dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main. » Vous voyez ce langage. Et je crois que pour nos vies, pour cette Église, il y a besoin de ce langage-là. Et on ne peut pas, on comprend parfois, mais on ne peut pas cautionner un langage qui dit « Vous irez dans le mur, vous n'y arriverez pas, etc. » On doit avoir ce langage de ce que Dieu dit. Parce que le problème de l'incrédulité, c'est vraiment une puissance spirituelle, l'incrédulité. C'est que ça se contamine. Mais la foi aussi. Et Dieu voudrait qu'on ait ce langage. Quand David, par exemple, il est là et il dit aux Philistins, « Tu marches avec moi, contre moi, avec l'épée, la lance, le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Le chant qu'on a pris ce matin, c'était un peu cette idée. Hein, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Je te donnerai le cadavre des camps des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et le cœur de David, ce n'était pas la victoire pour la victoire, pour être plus fort. C'était la renommée de Dieu. La renommée de Dieu. Et je pense que là, il y a la motivation. La motivation en tant qu'église locale n'est pas d'être une grande église. La motivation en tant qu'église locale, c'est la renommée de Dieu sur le pays. Point barre. Qu'on fasse notre mission, ce que Dieu nous demande. Mais la renommée de Dieu, c'est ça notre cœur. C'est notre passion. Et Dieu, pas seulement dans la nation, mais dans l'Europe. Et je crois que les défis que l'on a vécus, les tempêtes, les vents contraires, sont pour nous enraciner, faire de nous un peuple de foi qui marche à contre-courant, quelles que soient les intempéries et les intimidations. Tout le monde parle des problèmes, des Goliaths, mais David, lui, parle de Dieu et de sa grandeur. Et il y a cet épisode que Bill partageait, c'était Marc 4, Jésus dans la tempête qui dort dans la barque, vous connaissez tout ça. Et puis les disciples sont apeurés et puis Jésus, il se lève et il menace la tempête. Et là, le rappel nous a été fait que nous n'avons pas à prier en nous adressant à Dieu pour qu'il fasse des choses, mais nous avons à menacer nous-mêmes et prendre la responsabilité que Dieu nous donne pour parler aux tempêtes, pour parler aux vents contraires. Et il disait cette chose étonnante, « Arrête de demander à ton boss de faire ce qu'il t'a demandé à toi de faire. » Donc, nous devons menacer nous-mêmes les tempêtes. C'est à nous de guérir les malades. Et je salue le travail de cette équipe qui va sur Guévillers, de l'espace guérison. Et là encore, une chose importante qui m'a beaucoup touché, il n'a pas dit cette fois-ci, mais je sais dans ses ouvrages, ce Bill Johnson ou cette église qui parle de guérison, où ça coule, où chaque jour il y en a, il y a de partout. Vous connaissez, le prix qui a été payé pour qu'il y ait la guérison libérée, quand j'ai entendu un jour son témoignage, ça m'a bouleversé. Quand il a su que dans les Écritures, Dieu voulait guérir aujourd'hui encore, pendant 25 ans, il a prié pour les malades et il n'y a pas eu de guérison. Mais il a cru. Et il ne s'est pas laissé arrêter par ce qu'il voyait. Et un jour, il y a eu une percée dans une rue. Un malade a été guéri. Il s'est dit, ça y est, c'est la percée. Encore des années avant qu'il y ait la percée dans l'église. Vous voyez, la persévérance. Et il dit, voyez, cet héritage de la guérison, il y a certains qui l'ont payé quelque part, par leur persévérance, par leur foi, sans rien voir, jusqu'à la percée. Et bien, de la même façon, chacun de nous, on doit recevoir l'héritage qui nous a été donné, les héritages qui ont été reçus avec persévérance, avec foi, pour les faire croître, ces héritages. Et je parle à la jeune génération ici, il vous a été transmis des choses, votre rôle c'est qu'un jour vous aussi, vous voudrez transmettre et faire fructifier l'héritage qui vous a été confié. Pour Bill, ça a été entre autres la guérison, parmi bien d'autres choses, mais ce n'est pas venu tout seul. C'est venu par la persévérance, sans rien voir, pendant 25 ans. Ouh ! prêcher sur la guérison et pas voir de malades guéris et continuer à plus croire la parole que ce qu'on voit jusqu'à la percée. Et moi, je crois qu'il y a une percée pour la France. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et il nous prépare tous ensemble. Et il nous a parlé aussi de la gestion de la nécessaire de la déception et en particulier ce temps de préparation. La gloire, c'est un poids. Dans la Bible, la gloire est un poids. Il y a des gens, parfois, quand la gloire vient, on ne peut pas être debout. On tombe, on est assis, c'est kadosh en hébreu, c'est le poids. Et cette gloire, elle peut détruire si on n'est pas préparé à la recevoir. Et Dieu veut répandre sa gloire. Et donc, il prépare les autres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il fait ressortir par la pression les fissures, tout ce qui ne va pas. Non pas parce que pour juger, pour accuser, mais pour nous dire, voilà, ça je veux le traiter. Ça je veux le traiter. Et donc la pression, toutes les pressions, toutes sortes de pressions, ne sont pas là pour nous embêter, mais sont là pour faire ressortir, remonter les fissures de nos vies, les faiblesses de nos vies. Et au travers de ces faiblesses, Dieu veut passer, comme il a été dit dans le séminaire avec Pierre Kanga. Et dans cette humilité, eh bien, Dieu veut travailler et veut préparer l'outre pour qu'on puisse recevoir plus de gloire et plus de pression. Je me rappelle, quand je regardais un peu l'histoire des réveils, que ce soit les récents réveils ou autres, j'ai quand même été impressionné du côté pratique que ça entraînait. Par exemple, le réveil de Pensacola il y a quelques années, c'était une église locale qui tout d'un coup a dû arrêter de dormir 8 heures par jour. Les nuits ont diminué, 4 heures, 5 heures, parce qu'il fallait préparer les salles, nettoyer, il y avait une telle présence de Dieu qu'il fallait les équipes, le diaconat, tout ça, mes amis, nous on voit, c'est super, gloire à Dieu et tout ça. Et toutes les équipes qui nettoient les toilettes et tout ça, parce que des milliers de gens viennent, c'est impressionnant. Le côté pratique et la pression de la gloire, la pression de la présence de Dieu, eh bien il a fallu préparer l'outre. Et Dieu prépare nos outres. Et dans ce que Pierre a partagé, il y a deux choses qu'il arrache et qu'il met en valeur parfois, c'est le pharisianisme. Rappelez-vous le message. D'ailleurs, il va revenir probablement, on va en parler au niveau du conseil, mais il n'a pas pu aborder le fils aîné et les implications que ça. Et puis aussi les gens de mauvaise vie quoi, qui essaient de se consoler dans le péché loin de Dieu. Et ces deux extrêmes sont les deux tentations sur lesquels on oscille alors que nous sommes appelés à vivre dans la maison du Père. Donc la déception, c'est parfois se rendre compte de là où on en est. C'est quelque chose qui est mis à la lumière. Mais justement, il faut pas rester dessus. Et il faut se dire, Dieu est en train de le traiter. C'est parce qu'il veut manifester sa gloire. Et toujours croire, Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons même, à lui seul la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Qu'on puisse avoir une pensée qui accepte que Dieu a préparé pour nous et pour toi quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce que tu peux imaginer et penser. Et ça, c'était le rappel. Apprends à gérer ta vie, nous a-t-on dit, quand tu as des déceptions, sinon tu ne verras pas l'accomplissement de tes rêves. Si tu ne fais pas confiance dans tes manques, tu ne pourras pas gérer quand il y aura de l'abondance. Et Dieu éprouve notre fidélité, il veut apprendre à lui faire confiance dans les temps de pénurie pour qu'on puisse lui faire confiance dans l'abondance. Parce que si on ne lui fait pas confiance dans la pénurie, on ne saura pas faire confiance dans l'abondance. Donc voilà, donc bien sûr, il donnait l'exemple aussi qui m'a touché par rapport à la foi et à la persévérance. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui avait besoin de l'équivalent de 5000 euros et il priait. Et puis quelqu'un lui donne l'équivalent, le dixième quoi. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Alors tu peux être déçu. Tu dis j'ai reçu que 500, j'avais besoin de 5000. Mais, mais Dieu, il donne la semence parce que dans la semence qu'il te donne, c'est comme tu pries pour un chêne, tu reçois un gland. Alors il y en a, ils reçoivent le gland, ils sont désespérés. J'ai prié pour un chêne, j'ai reçu un gland. Et alors, il commence à glander, quoi, au lieu d'être dans la foi. Mais Dieu dit, dans le gland que tu as, il y a le chêne. Et souvent, nos prières, on demande des grandes choses, et c'est bien, il faut continuer, et on ne reconnaît pas que lorsque la réponse de Dieu, qui n'est pas comme on voudrait, mais qui est la semence pour le plus grand. Donc ça, c'est... Apprenons à célébrer. C'était 50 et 500, voilà. Donc, la personne qui avait besoin de 500, elle reçoit ses 50. Et donc, elle va ensuite faire des courses, et elle rencontre un couple qui n'arrivait pas à payer ses courses. Aux États-Unis, ça arrive aussi, hein. Donc, ils étaient devant la caisse, il n'y avait pas assez, bon. Et là, le Seigneur dit à cette personne, donne tes 50. Alors déjà qu'il lui fallait 500, elle donne ce qu'elle avait, les 50. Eh bien, vous connaissez la suite, sûrement. C'est que la provision, quelqu'un est venu dans sa maison, devant sa porte, et lui a donné les 500. Ça, c'est extraordinaire. Ça me rappelle un voyage en Israël, un témoignage aussi. Quelqu'un, un jeune, qui sentait de l'appel de Dieu pour y aller, mais il ne l'avait pas. Alors il priait. Alors il a reçu, petit à petit, jusqu'à la moitié de la somme. Vous vous rendez compte? Alors il s'est dit, encore il manque la moitié. Et puis arrive un épisode un peu comme ça, un besoin quelque part. Et là, le Seigneur qui lui dit, donne. Mais Seigneur, ça fait des mois que, petit à petit, j'économise. Et puis, il a donné à un pauvre. Et vous savez, la Bible dit, quand tu donnes à un pauvre, tu prêtes à qui? À l'Éternel. Et donc, là, il y a eu la somme pour ce voyage en Israël. Ça, c'est des principes qui nous ont encouragés. On a eu aussi quelqu'un de High Hope, Kansas City, qui a parlé sur les percées spirituelles. Et bien sûr, quelque chose qu'on connaît, mais pas de percée sans prière. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Donc ça nous a encouragés. Quelques mots, et je vais par rapport au être le sel et la lumière. Et là, c'est Bill Johnson qui a insisté sur... vous savez, on a Heinz là, qui nous a fait une belle présentation sur le mur là, d'une ville éclairée par une grosse ampoule et une salière. Et Bill nous expliquait que longtemps, il a vu que le sel, c'était pour conserver les aliments. Mais c'est aussi surtout pour donner du goût. Nous sommes appelés à donner du goût là où nous sommes, dans ton travail, dans ton école. Donner du goût. Est-ce que quand les gens sont avec toi, c'est du bon pain, quoi? Nous sommes appelés à donner du goût dans toutes les sphères de la société. C'est ça. Et cette notion de lumière du monde, quand Jésus dit, c'est comme une ville sur une montagne dans la nuit. Mais une montagne, elle est visible. La lumière d'une ville est d'autant plus visible quand c'est la nuit. Et la nuit qui est sur l'Europe, elle est faite non pas pour nous embêter, mais pour faire ressortir la lumière. Et de plus en plus, c'est quelque chose qui va se voir. Une parole prophétique, Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » C'est d'abord pour Israël, cette promesse. Elle est d'abord pour Israël, mais elle est aussi, parce que nous sommes greffés, elle est aussi pour nous. Et cette lumière, il y a l'obscurité au niveau des peuples, mais sur son Église, faite de ces païens et de ces juifs qui rencontrent le Seigneur, ensemble, nous sommes appelés à briller. Et je termine en m'attardant plus sur un psaume que Bill a cité, c'était hier matin. Et c'est un psaume, je pense, il pense vraiment prophétique pour la saison dans laquelle nous sommes. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble, c'est le psaume 67. Le psaume 67, je crois que c'est une parole de Dieu pour l'Église, pour le corps de Christ. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture. Tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre craignent. Alors verset 2, Dieu ait pitié de nous, bénis-nous. Et j'aimerais vous confesser que longtemps, j'ai résisté à ce genre de prière que je n'aimais pas trop. Seigneur, bénis-moi. Et je trouvais ça égoïste, quelque part. Bénir les autres, oui. Être source de bénédiction pour les autres, oui. Mais prier, Seigneur, bénis-moi, j'avais toujours du mal. Et là, j'ai été repris, mes amis. Boum ! Alors là, ça a été la fusée. J'ai dit, Seigneur, pardon. Parce que, bien sûr qu'il peut y avoir une prière, bénis-moi, égoïste. Mais ce verset, ce psaume nous dit que c'est parce que tu es béni que les peuples peuvent voir la main de Dieu et louer Dieu. Et donc, prier, bénis-moi, et pitié de moi, bénis-moi, Seigneur. Ça peut avoir comme motivation tout le contraire de l'égoïsme. Et en fait, quelque part, il peut bien avoir pas mal d'orgueil à dire, Seigneur, bénis les autres, mais moi pas. Ou de mépris de soi, qui est tout à fait l'opposé de ce que Dieu a pour nous. Et vous connaissez tous dans un livre, alors je ne sais pas, il a été cité cette histoire que peut-être vous avez lue, je ne sais plus dans quel livre, mais je l'avais déjà entendue, cette histoire de famille missionnaire qui se retrouvait dans la disette et la maman, elle choisit de mettre quand même la table alors qu'il n'y avait rien à manger. Donc ils mettent les assiettes et il n'y a pas de plat. Et alors ils ont commencé à dire, bon, on va prier, on va remercier le Seigneur pour ce repas. Vous l'avez entendu ce témoignage déjà ? Un orphelin, c'est peut-être Muller. Hein. Voilà. Et alors, bien sûr, il prie pour le repas. Merci Seigneur. Les assiettes sont vides, les plats sont vides. Merci Seigneur pour le repas que tu nous donnes. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Alors écoutez bien. C'est extraordinaire comme histoire. Et quand on lit cette histoire, on se met à la place de ces gens. On se dit, ben moi aussi, quand je suis dans la disette, Seigneur, je veux confesser la foi. Mais là, on nous a raconté cette histoire avec un autre niveau. Et il nous a dit, c'est Bill qui parlait, qui disait, moi, je veux être celui qui frappe à la porte et qui apporte le repas. Et la bénédiction de Dieu, elle nous est donnée pour qu'on puisse être ces gens qui pourvoient pour la nation et autres. Donc, on peut avoir une mentalité, si vous voulez, de désert. On attend les miracles. Hein, et je vais en parler, oui. On attend les miracles et tout ça. Et Dieu le fait. Et c'est dans le désert, Dieu a pourvu. Voilà. Mais on peut aussi s'attendre à... Le but, ce n'était pas le désert. Le but, c'était la terre promise. Et la terre promise, c'est une terre où il y a l'abondance. Et l'abondance, pas seulement pour nous, mais pour que ça déborde. Donc, prier, Seigneur, bénis-moi, est une prière tout à fait biblique et que Dieu voudrait que l'on fasse de façon à ce qu'on puisse déborder et être ces gens qui frappent à la porte. Alors, un jour, il y a une émission radio. C'était un homme d'affaires non chrétien à Reading, je crois. Et alors, le journaliste l'interviewe et lui dit qu'est-ce que vous pensez ? Alors, ils appellent là-bas l'effet Bethel. Cette église a un tel impact sur la ville, au niveau économique entre autres aussi, qu'il y a une expression, c'est l'effet Bethel. Imaginez qu'on parle de l'effet porte ouverte, l'effet Josué, tu vois, imaginez. Voilà, ça viendra, hein, amen, l'effet Bethel. Et alors, c'est-à-dire il y a un impact, est-ce qu'il y a vraiment un effet de cette église au niveau de l'économie ? C'est un spécialiste d'économie, un entrepreneur non chrétien, sur la ville. Est-ce que vous reconnaissez ce qui se dit comme ça ? Et ce gars, il a dit, mais oui, mais tout à fait, tout à fait. Et il a donné un pourcentage de création d'entreprise et 85% des nouvelles entreprises sont connectées avec cette église de Bethel. Impressionnant, donc dans les dernières années. Donc la créativité, l'esprit d'entreprise, de création est reconnu par d'autres qui reconnaissent, qui louent Dieu. Donc c'est ça, bénis-moi Seigneur et les peuples te louent, voyez. Bénis-nous Seigneur, afin que les peuples te louent. Ça m'a particulièrement touché. Et lorsqu'il est dit que les peuples te louent, tous les peuples te louent, verset 6-7, la terre donne ses produits. Et là, on se rappelle des réveils. Il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques décennies, peut-être 20 ans, en Amérique du Sud. Rappelez-vous, c'était des cassettes vidéo qui partageaient de ça. Hein. Transformation, voilà. Des zones de réveil, et bien la terre même
ça produisait des fruits de dingue, quoi. Des carottes énormes. Moi, j'ai vu et c'était un témoignage que la terre était touchée par l'atmosphère du ciel. La terre. Dieu aime la terre. Et Dieu faire descendre son ciel sur la terre. Alors, bien sûr, imaginez, vous savez que les rindelles, ils aimaient bien les lapins. Ils avaient toujours un lapin chez eux. Et leur fille, c'est une spécialiste. Attention à jamais manger du lapin en présence de la fille d'Alain, sinon vous êtes mort. Alors imaginez les pauvres lapins avec ces énormes carottes. La vie est impossible là. La vie devient impossible. Donc Dieu veut bénir la terre. Et Dieu veut bénir notre terre de France. Et ça, vous voyez, la louange des peuples amène la guérison de la terre. Je trouve ça extraordinaire. Alors déjà qu'en Alsace, on a des terres à choucroute, dans le monde entier. Mais Dieu veut bénir cette terre. Et Dieu veut qu'on aime notre terre. Il veut qu'on aime notre région. Est-ce que vous aimez votre région? Amen. On aime aussi la France de l'intérieur. On aime notre terre. On aime notre terre. Et Dieu, il veut manifester sa gloire en levant les fils et les filles, l'épître aux Romains, hein, et afin que toute la création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Il n'y a pas de fils et de filles sans la connaissance du Père. Et le Père, dont nous a parlé en long, en large, encore Pierre, d'ailleurs je vous ai envoyé les notes, j'espère que ce n'est pas pour rien, et que vous les lisez, les méditez, les approprier, mais ce Père, plus on le connaît, plus on devient fils et fille, et plus la terre guérit. Alors on n'a pas tout compris encore, mais ça c'est merveilleux. Donc voyez, et cette bénédiction, et je termine par ça, il y a un disciple qui va vers Jésus, Marc 10, 28, et il lui dit, nous avons tout quitté pour toi Seigneur. Et Pierre se met à dire, on a tout quitté, on t'a suivi, et Jésus répond, je vous dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, bing, des persécutions. Ça fait quoi là-dedans? Tu sais, t'as la série, là, ça monte. Hein, voilà, des mères, des enfants, des terres et des persécutions. Alors tu te dis... Et en fait, le truc, c'est ça. Quand on prie pour la bénédiction, il y a des persécutions qui viennent avec toute la bénédiction. Ça fait partie du lot. Et donc, il ne faut pas s'étonner. Ça fait partie du lot. Donc, ne prie pas pour être béni si tu n'es pas prêt à accepter aussi ce petit côté-là des persécutions qui sont données à tous ceux qui sont, en particulier prophétiques et prophètes. Que Dieu nous aide, je rappelle, à briser tout pessimisme dans nos vies et à parler le langage de la foi sur soi, sur les autres, sur ton église, sur ton pays, et à contrer tout ce qui vient. Et je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, hier soir, il y a eu le concours de l'Eurovision, et cette chant qui a été choisi par les Français, Merci, qui parle de cette naissance d'un enfant qui est parti avec sa maman enceinte de Libye, et sur un radeau, allez, je vous lis la chanson, allez, une deuxième fois, et je vous invite à la regarder, cette chanson, Merci, M-E-R-C-I, ça veut dire la grâce, ça veut dire la miséricorde. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci, au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman t'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre, sûr qu'elle avait raison, il n'y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci qui m'a tendu la main. On m'a tendu la main, je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mère a pris. Je vivrai 100 000 ans, je m'appelle Merci. Et là, devant nos yeux, il y avait l'ennemi, une immensité bleue, peut-être infinie. Mais oui, on en connaissait le prix. Surgissant d'une vague, un navire ami a redonné sa chance à notre survie. Et c'est là que j'ai poussé mon premier cri. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci, on m'a tendu la main. Je suis en vie, je suis tous ces enfants que la mère a pris. Je vivrai 100 000 ans, je m'appelle Merci, je suis né ce matin. Je m'appelle Merci, 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 je vais bien, Merci. C'est l'histoire de cet enfant qui est né sur un bateau qui a récupéré les réfugiés et les migrants de Libye. Et si la France a choisi un tel chant qui parle de la miséricorde, c'est le cœur de la France qui est en train de guérir. Et le Seigneur est en train de faire quelque chose dans notre pays. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans notre pays. Merci pour ces signes encourageants. Merci pour ton cœur que tu es en train de déverser dans le nôtre. Et même au-delà, dans tout ce peuple que tu aimes, que tu chéris. Merci à ceux qui font miséricorde. Eh bien, tu fais miséricorde. Merci pour cet enfant, signe de résurrection, signe d'une nouvelle saison. Et nous proclamons encore une année 2018 de jubilé, de percée de la foi, d'accomplissement des promesses, de persévérance jusqu'à l'obtention des promesses. Merci pour cette formation Timothée qui commence samedi prochain avec Arim. Merci pour ces 16 jeunes qui se lancent pour servir, pour marcher avec toi, pour être équipés et pour en même temps amener le ciel sur la terre avec les dons que tu leur as donnés. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte, merci pour ta bonté qui durera toujours. Merci pour Johan qui est une bénédiction au milieu de nous et dans les nations. Merci pour ce pain que nous sommes et ce sel et cette lumière dont tu fais chacun d'entre nous un ambassadeur. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. On prie pour Huguette qui n'est pas aujourd'hui là parce qu'elle est bloquée dans son dos, dans ses genoux, elle n'arrive pas à se déplacer depuis jeudi. Seigneur, nous élevons ton nom sur Huguette et nous crions grâce et nous commandons maintenant à ce qui paralyse ce corps, ce qui l'empêche d'être debout, ce qui lui donne des douleurs, maintenant de cesser. Et en tant qu'Église, nous invoquons le sang de l'agneau sur son corps et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et par les meurtrissures de l'agneau, nous proclamons la guérison et la restauration de notre chère sœur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Déborah Beck aussi qui est coincée, décidément, cette famille. Et les deux Beck sont malades aussi. Seigneur, nous invoquons ton nom sur toute cette famille. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous appelons la bénédiction sur chacun d'eux et la restauration et la guérison. Que les maladies quittent au nom de Jésus. Que les douleurs, que les malformations du dos, des vertèbres, des colonnes vertébrales, qu'il y ait un redressement, Seigneur, du corps et de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite, on continuera à prier durant la semaine. On ne les oublie pas. Voilà, on va se quitter. Je rappelle, pour tous ceux qui se sont inscrits à la formation Timothée, les 16 là, donc rendez-vous vendredi prochain. Ceux qui peuvent, à 19h, une heure avant, on va commencer à prier. On a vu Arim hier, il a dit il y a un gros combat spirituel qu'il a senti par rapport à cette formation. D'ailleurs, on en sait quelque chose, parce que dès qu'on l'a décidé, les vents contraires sont venus. Donc, j'invite l'Église à prier en particulier pour ça. Nous sommes dans un temps de transmission. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et ce que ces jeunes vont vivre, ça va être tout à fait particulier. Je rappelle une phrase, je ne résiste pas à vous la donner. Écoutez ça. Nous régnons